Et simple aux larges flancs, capable de porter un monde. Qui savait d'où naîtrait la branche saine? Peut-être le sage, le puissant attendu, germerait-il là? Le pis était, pour la beauté de son arbre, que ses gamins et ses gamines étaient si petits encore qu'ils ne pouvaient les classer. Et sa voix s'attendrissait sur cet espoir de l'avenir, ses têtes blondes, dans le regret inavoué de son célibat. Pascal regardait toujours l'arbre étalé devant lui. Il s'écria. « Et pourtant, est-ce complet? Est-ce décisive? Regarde donc! Je te répète que tous les cas héréditaires s'y rencontrent. Je n'ai eu, pour fixer ma théorie, qu'à la baser sur l'ensemble de ces faits. Enfin, ce qui est merveilleux, c'est qu'on touche là du doigt comment des créatures, nées de la même souche, peuvent paraître radicalement différentes, tout en n'étant que les modifications logiques des ancêtres communs. Le tronc explique les branches qui expliquent les feuilles. Chez ton père, Saccard, comme chez ton oncle, Eugène Rougon, si opposés de tempérament et de vie, c'est la même poussée qui a fait les appétits désordonnés de l'un, l'ambition souveraine de l'autre. Angélique, ce lys pur, naît de la louche Sidonie, dans l'envolée qui fait les mystiques ou les amoureuses, selon le milieu. Les trois enfants des Mourets sont emportés par un souffle identique qui fait d'Octave intelligent un vendeur de chiffons millionnaire, de Serge croyant un pauvre curé de campagne, de Désiré imbécile une belle fille heureuse. Mais l'exemple est plus frappant encore avec les enfants de Gervaise. La névrose passe, et Nana se vend. Étienne se révolte, Jacques tue, Claude a du génie. Tandis que Pauline, leur cousine germaine, à côté, est l'honnêteté victorieuse, celle qui lutte et qui s'immole. C'est l'hérédité, la vie même qui pond des imbéciles, des fous, des criminels et des grands hommes. Des cellules avortent, d'autres prennent leur place, et l'on a un coquin ou un fou furieux, à la place d'un homme de génie ou d'un simple honnête homme. Et l'humanité roule, charrée en tout. Puis, dans un nouveau branle de sa pensée, et l'animalité, la bête qui souffre et qui aime, qui est comme l'ébauche de l'homme, toute cette animalité fraternelle qui vit de notre vie. Oui, j'aurais voulu la mettre dans l'arche, lui faire sa place parmi notre famille, la montrer sans cesse confondue avec nous, complétant notre existence. J'ai connu des chats dont la présence était le charme mystérieux de la maison, des chiens qu'on adorait, dont la mort était pleurée et qui laissait au cœur un deuil inconsolable. J'ai connu des chèvres, des vaches, des ânes d'une importance extrême, dont la personnalité a joué un rôle tel qu'on en devrait écrire l'histoire. Et tiens, notre bonhomme à nous, notre pauvre vieux cheval qui nous a servi pendant un quart de siècle, est-ce que tu ne crois pas qu'il a mêlé de son sang au nôtre et que désormais il est de la famille? Nous l'avons modifié comme lui-même a un peu agi sur nous. Nous finissons par être faits sur la même image. Et cela est si vrai que lorsque maintenant je le vois à demi aveugle, l'œil vague, les jambes percluses de rhumatisme, je l'embrasse sur les deux joues, ainsi qu'un vieux parent pauvre tombé à ma charge. Ah, l'animalité, tout ce qui se traîne et tout ce qui se lamente au-dessous de l'homme, quelle place d'une sympathie immense il faudrait lui faire dans une histoire de la vie. Ce fut un dernier cri où Pascal jeta l'exaltation de sa tendresse pour l'être. Il était peu à peu excité. Il en arrivait à la confession de sa foi, au labeur continu et victorieux de la nature vivante. Et Clotilde, qui jusque-là n'avait point parlé, toute blanche dans la catastrophe de tant de faits qui tombaient sur elle, desserra enfin les lèvres pour demander. « Eh bien, maître, et moi, là-dedans ?» Elle avait posé un de ses doigts minces sur la feuille de l'arbre où elle voyait son nom inscrit. Lui, toujours, avait passé cette feuille. Et elle insista. « Oui, moi, que suis-je donc? Pourquoi ne m'as-tu pas lu mon dossier ?» Un instant, il resta muet, comme surpris de la question. « Pourquoi ? Mais pour rien. C'est vrai, je n'ai rien à te cacher. Tu vois ce qui est écrit là. Clotilde, née en 1847, élection de la mère, hérédité en retour avec prédominance morale et physique de son grand-père maternel. Rien n'est plus net. Ta mère l'a emporté en toi. Tu as son bel appétit et tu as également beaucoup de sa coquetterie, de son indolence parfois, de sa soumission. Oui, tu es très femme comme elle, sans trop t'en douter. Je veux dire que tu aimes à être aimée. En outre, ta mère était une grande liseuse de romans, une chimérique qui adorait rester couchée des journées entières à rêvasser sur un livre. Elle raffolait des histoires de nourrices, se faisait faire les cartes, consultait les somnambules. Et j'ai toujours pensé que ta préoccupation du mystère, ton inquiétude de l'inconnu, venait de là. Mais ce qui achève de te façonner, en mettant chez toi une dualité, c'est l'influence de ton grand-père, le commandant Sicardo. Je l'ai connu. Il n'était pas un aigle. Il avait au moins beaucoup de droiture et d'énergie. Sans lui, très franchement, je crois que tu ne vaudrais pas grand-chose. Car les autres influences ne sont guère bonnes. Il t'a donné le meilleur de ton être, le courage de la lutte, la fierté et la franchise. » Elle l'avait écouté avec attention. Elle fit un léger signe de tête pour dire que c'était bien ça, qu'elle n'était pas blessée, malgré le petit frémissement de souffrance dont ces nouveaux détails sur les siens, sur sa mère, avaient agité ses lèvres. « Eh bien, reprit-elle, et toi, maître ?» Cette fois, il n'eut pas une hésitation, il cria. « Oh, moi, à quoi bon parler de moi ? Je n'en suis pas de la famille. Tu vois bien ce qui est écrit là. Pascal, né en 1813, inéité. Combinaison où se confondent les caractères physiques et moraux des parents, sans que rien d'eux semble se retrouver dans le nouvel être. » Ma mère me l'a répété assez souvent que je n'en étais pas, qu'elle ne savait pas d'où